Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Stéphane Place.
Le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain.
C'est Édouard Philippe, vous venez de l'entendre, qu'il a annoncé aujourd'hui le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin prochain. Une date qui pourrait être remise en cause en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus et un scrutin qui imposera le port du masque aux 16 millions d'électeurs des 5000 villes de France concernées. Plutôt bien accueilli par les élus, l'annonce de cette date satisfait l'Association des maires de France qui trouve normal que la vie démocratique reprenne son cours.
Nous avons déjà l'expérience du premier tour où nous avons su montrer qu'on pouvait venir voter en sécurité. On peut encore s'améliorer d'ailleurs pour le second tour.
Alors que Renault doit dévoiler la semaine prochaine un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros, les ouvriers de l'usine de Flins notamment s'inquiètent de l'avenir réservé à ce site industriel emblématique de la marque aux losanges.
Puis on s'attend à ce que la réponse soit pas bonne. Même si on nous dit que l'usine n'a pas fermé, comme disait mon collègue, s'il n'y a plus personne dedans, c'est voué forcément fermé.
Et puis nous verrons dans ce journal que tous les restaurateurs ne sont pas pressés de rouvrir leurs établissements. La sécurité sanitaire doit primer, nous expliquera l'un de ses chefs. Un président qui nie la gravité de l'épidémie et un nombre de morts qui explose. C'est la tragédie que vit le Brésil, où nous retrouverons la correspondante d'Europe 1. Amiens, Toulouse et Lyon, trois clubs de foot qui n'acceptent pas l'arrêt brutal du championnat et donc le classement. Mais ce soir, la justice rejette leur recours, nous expliquera Christophe Lamar. Sans oublier, comme tous les soirs, la météo d'Anissa Haddadi, top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com. L'invité écho, ce soir, Emmanuel Duteil reçoit Arthur Benzaken, le cofondateur de Ken Group, et les titres qui seront à la une de vos journaux demain matin.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement a donc tranché et arrêté une date pour le second tour des élections municipales. Il aura lieu le 28 juin prochain. 5000 villes sont concernées. Bordeaux, Lille, Paris, Marseille ou encore Lyon par exemple. 16 millions d'électeurs appelés aux urnes dans le contexte sanitaire particulier que nous connaissons. Et précisément, prévient le Premier ministre Édouard Philippe, cette décision pourra être revue en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Comme nous l'avions déjà fait pour le premier tour, le ministre de l'Intérieur va engager dès la semaine prochaine la concertation avec les maires de France pour organiser en toute sûreté les opérations électorales proprement dites, en suivant précisément les recommandations du Conseil scientifique. Comme toutes les décisions prises dans le cadre du déconfinement, celle de tenir le second tour des élections le 28 juin prochain est réversible.
Voilà pour l'annonce du Premier ministre aujourd'hui. Bonsoir Adrien Becht, on vient d'entendre Édouard Philippe. Scrutin programmé le 28 juin, mais avec de toute façon des précautions sanitaires imposées et strictes.
Oui, alors si vous avez voté au premier tour, vous vous en souvenez peut-être, des marquages au sol pour bien matérialiser la distance physique, des électeurs invités à venir avec leur propre stylo, à garder leur pièce d'identité à la main. On reprend donc les mêmes consignes pour ce second tour, avec une différence de taille annoncée par Christophe Castaner, le masque obligatoire.
Chaque électeur devra porter un masque de protection, qui pourra être un masque grand public. Ils devront également pouvoir disposer de gel hydroalcoolique ou d'un accès à un point d'eau pour se laver les mains. Les membres du bureau de vote devront porter un masque chirurgical tout au long de l'opération de vote, tout comme les scrutateurs au moment du dépouillement.
Pour les personnes fragiles, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à aller le plus loin possible pour permettre le vote par procuration. Il a en revanche balayé l'idée d'un vote par correspondance. Mais avant le vote, il y aura aussi la campagne, une campagne certes plus longue, mais qui sera à minima. Il faudra privilégier l'usage d'Internet, demande le gouvernement, qui n'exclut pas, par exemple, de permettre aux candidats d'envoyer des professions de foi qui seraient un peu rallongées.
Si quelques élus sont opposés à l'organisation de ce second tour fin juin, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, par exemple, qui considère que l'exécutif prend un risque sanitaire et ne permet pas une vraie campagne électorale, globalement, la plupart des associations d'élus, de nombreux maires, sont favorables à la tenue de ce second tour en juin. Et ce soir, la vice-présidente de l'Association des maires de France, elle-même maire de Morlaix, Agnès Lebrun, salue cette décision.
tout est inédit naturellement dans cette crise et c'est pour longtemps d'une certaine façon. Les mœurs sociales ont évolué et par conséquent, les mœurs politiques vont également évoluer. Mais nous avons déjà l'expérience du premier tour où nous avons su montrer qu'on pouvait venir voter en sécurité. On peut encore s'améliorer d'ailleurs pour le second tour, notamment avec le masque. Pour ce qui est de la campagne, effectivement, c'est un enjeu et un challenge puisque le tractage, le porte-à-porte, les réunions publiques, enfin tout ça, il va falloir imaginer autre chose. Chacun devra être inventif. Maintenant, la campagne entre les deux tours, traditionnellement, elle est très courte. Là, elle est un peu plus longue, hein, d'une certaine façon. Donc, ça laisse aussi un peu de temps pour réfléchir et pour faire passer les messages.
Agnès Lebrun, maire de Morlaix, avec Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Pas le choix, la mairie de Bobigny va devoir rouvrir ses écoles maternelles et ses crèches d'ici à début juin. C'est le tribunal administratif qui l'a ordonné aujourd'hui. La municipalité avait décidé de prolonger la fermeture de ses établissements jusqu'en septembre, mais cela porte atteinte au droit à l'éducation, selon la justice. Ce soir, après 11 jours de déconfinement, le nombre de patients en réanimation, et c'est un indicateur important, vous le savez, continue de baisser. Les autorités ne constate pas de signe de deuxième vague tant redoutée. 95 centimes d'euros, c'est le prix maximum autorisé pour la vente d'un masque chirurgical, un plafond imposé par le gouvernement et prolongé jusqu'au 10 juillet. Idem pour le prix des gels hydroalcooliques, 2,64 € précisément pour 100 millilitres. Une crise sanitaire qui se double d'une crise économique dont on a encore du mal à cerner l'ampleur. On redoute évidemment les conséquences sur l'emploi dans les mois à venir et ce soir, c'est la situation de Renault qui inspire de vives inquiétudes. Le constructeur français doit annoncer un plan d'économie de 2 milliards d'euros la semaine prochaine. L'usine de Flins ne doit pas fermer. Mise en garde aujourd'hui sur Europe 1 du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Emmanuel Dutheil, je me tourne vers vous. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. À travers les propos de Bruno Le Maire, on entend le gouvernement poser des limites à la restructuration qu'envisage Renault.
Que Renault reconvertisse Flins, ça nous va, mais pas question de fermer cette usine. Voilà ce que l'on dit dans l'entourage de Bruno Le Maire. Renault met actuellement la toute dernière main au plan d'économie qu'il doit présenter vendredi prochain. Et de sources internes, on le reconnaît, il est bien possible que l'on ne fabrique plus dans les années à venir des voitures à Flins. Avec les propos très fermes tenus ce matin sur Europe 1 par Bruno Le Maire, le gouvernement met donc une barrière très claire. Oui, à la fermeture de petits sites à l'avenir plus incertain, on parle par exemple des fonderies de Bretagne, mais il faut un vrai projet de reconversion pour une usine comme Flins.
Un vrai projet de reconversion, mais ce plan d'économie, Emmanuel, sera sévère et difficile pour Renault.
Oui, hein, ce que prépare Renault, c'est un vrai plan global. Aujourd'hui, les usines sont largement surdimensionnées, il faut donc rationaliser. Il faut rationaliser partout où c'est possible dans le groupe, hein, personne ne sera épargné. Renault prépare un gros plan de départ volontaire et de départs anticipés. Il faut aussi relancer concrètement l'alliance avec Nissan et Mitsubishi. Là aussi, des projets vont être présentés en milieu de semaine prochaine. Il faut encore accélérer sur l'électrique, les technologies de demain. Certains modèles qui ne correspondent plus aux attentes des clients devraient être arrêtés comme l'espace. Et le gouvernement est clair, si Renault veut obtenir son prêt de 5 milliards d'euros, il faut être ambitieux. Ça passera aussi sûrement par des relocalisations et l'obligation de développer en France tous les projets d'avenir. Sans compter que Bercy prévient le groupe, il faut aussi participer au plan batterie, un plan jusque-là snobé par Renault. C'est rare, mais cette fois, on a de vrais moyens de pression, dit-on à Bercy, où on prévient, sans cette aide, la pérennité de Renault est en jeu.
Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1, on vous retrouve d'ailleurs après le journal, Emmanuel, pour l'invité Écho. On l'a compris, Bercy fait les gros yeux et la pression sur Renault se traduit par l'attention portée notamment au devenir de l'usine de Flins dans les Yvelines. C'est un site industriel historique de la marque et c'est là que vous vous êtes rendu, Élise Donjon, pour Europe 1.
Aucune information. Nous, on l'a appris comme ça à la télé.
Les salariés de l'usine de Flins sont toujours très inquiets, notamment par l'attitude de leur direction. Silence radio jusqu'à présent, alors ils craignent le pire, que le changement d'activité prévu pour le site s'accompagne d'une suppression d'emplois, voire que tout ça ne soit qu'un écran de fumée. Olivier Augustin travaille ici depuis 25 ans. Il est délégué CGT.
C'est du baratin parce que Flins, c'est un gros morceau de 3500, 4000 travailleurs, CDI, plus les intérimaires, les sous-traitants. Et effectivement, S'ils disent tout de suite Flins ferme demain, ça c'est sûr que ça va mal se passer. Alors du coup, ils manœuvrent.
Et puis il faut le dire, une incompréhension, car même si le groupe est frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, les salariés se pensaient à l'abri. à tort, selon Thierry Gonod de la CGT.
Il y a une entreprise qui a fait plus de 25 milliards de bénéfices ces 10 dernières années. Et à la première bourrasque, le capitaine se propose de jeter l'équipage par-dessus bord pour alléger le bateau.
Tous attendent donc avec impatience le 29 mai prochain et la présentation du fameux plan d'économie de 2 milliards d'euros.
Élise Dangean, envoyée spéciale à Flins sur donc le devenir de l'usine Renault. Cette décision à présent qui va intéresser de nombreux entrepreneurs. Le tribunal de commerce de Paris a donné raison aujourd'hui en référé à un restaurateur parisien. Il avait assigné son assureur, en l'occurrence AXA France, qui refusait d'indemniser les pertes d'exploitation de l'un de ses établissements. Fermeture engendrée bien entendu par la crise sanitaire. Pour Europe 1, les explications de Clément Le Saffre.
Eh bien, Stéphane Manigold accuse AXA d'interpréter dans son intérêt les termes du contrat. Le restaurateur est en effet couvert en cas de fermeture administrative, mais l'assureur estime, lui, que la fermeture liée aux mesures sanitaires ne rentre pas dans ce cadre. Le tribunal de commerce de Paris a donc tranché en faveur de Stéphane Manigold, forcément heureux.
Ah ben, c'est un bol d'air incroyable. Il faut savoir que depuis le 14 mars minuit, on rentre plus un euro de chiffre d'affaires. Le magistrat du tribunal de commerce de Paris vient de redonner de l'espoir à tous les chefs d'entreprise.
AXA, de son côté, va faire appel. L'assureur estime que le juge des référés a uniquement donné raison au restaurateur sur la forme. Oui, les préjudices subis doivent être indemnisés. Mais, selon Éric Lemaire, porte-parole d'AXA, le tribunal n'a pas tranché si oui ou non l'interdiction de recevoir du public peut être assimilée à une fermeture administrative.
Nous devrons certainement aller devant un juge du fond qui dira si oui ou non les clauses de perte d'exploitation de M. Manigold s'appliquent. Nous pensons que dans son contrat, qui est un problème de fermeture administrative, ça ne peut pas s'appliquer à un arrêté de portée générale.
Reste à savoir quelle sera la portée de cette décision. Selon Stéphane Manigold, une brèche a été ouverte dans laquelle les restaurateurs pourraient s'engouffrer. Faux, répond AXA, son cas est très spécifique. 99% des contrats de restaurateurs ne présentent pas le moindre doute sur l'absence d'indemnisation.
Les restaurateurs ne sont pas pressés de rouvrir leurs établissements. Alors bien sûr, c'est une attitude qui peut surprendre au regard du gouffre financier qui se creuse au fil des jours. Mais pour cette soixantaine de chefs dont les étoilés Gilles Goujon, Michel Sarran ou encore Olivier Nasty, installé près de Colmar et que Marion Gauthier a joint pour Europe 1, l'essentiel est d'abord d'assurer la pleine sécurité sanitaire de leurs employés et de leurs clients.
Entre les grandes tables, les petites tables, on a tous un modèle économique différent. Et donc, la demande, elle était pour ceux qui ont la chance de pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions, on pourra ouvrir. Et d'autres qui ont pas cette chance, d'autres qui se retrouvent peut-être reculés, qui n'ont pas les équipes, qui puissent avoir la possibilité de fermer. Et là, la demande est faite pour qu'il y ait un accompagnement pour cette profession qui est en réelle souffrance, hein, on le sait. Il faut que chacun ait le libre choix de le faire. S'ils ne le sentent pas, il ne faut pas qu'ils se sentent obligés de le faire parce qu'ils vont le faire dans de mauvaises conditions. Et par la suite, il va y avoir des contrôles et on va devoir refermer leur restaurant par fermeture administrative ou bien on va mettre des punitions sur des maisons comme ça qui aujourd'hui n'en ont pas besoin. Moi, je suis prêt à prendre le risque. Mais il faut que je sente que j'ai un appui sur le long terme à mes côtés.
Voilà, Olivier Nasty, l'un des restaurateurs signataires de cette lettre ouverte joint pour Europe 1 par Marion Gauthier. 14 jours d'isolement pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est ce que le Royaume-Uni va imposer aux voyageurs arrivant de l'étranger, qu'ils soient citoyens britanniques, pouvant donc rester chez eux pendant cette période, ou qu'il s'agisse de visiteurs d'une autre nationalité qui devront, eux, s'organiser pour respecter cette obligation. Officiellement, mais ces chiffres sont sans doute, disent les experts, nettement en dessous de la réalité, la pandémie a touché un peu plus de 5 millions de personnes dans le monde. Une chose est certaine, tous les pays n'affrontent pas la pandémie de la même manière. Au Brésil, on constate une hausse tragique du nombre de victimes ces derniers jours, plus de 20 000 morts. Jair Bolsonaro, le président du pays, continue de nier la gravité du coronavirus. Résultat, Marino Dacher, les Brésiliens ont bien du mal à prendre conscience du danger que constitue le Covid-19.
Oui, plus de la moitié des Brésiliens ne respectent pas le confinement, pourtant imposé par certains gouverneurs dans plusieurs États. Il faut dire que le président Jair Bolsonaro continue à encourager la reprise du travail et ses partisans le suivent. Il continue, lui, à sortir, le masque baissé sur le menton, méprisant toutes les règles de prévention de l'OMS. Il n'y a aucune politique de santé publique coordonnée au Brésil face à l'explosion des cas. On a déjà deux ministres de la Santé qui se sont succédés depuis le début de la pandémie et aujourd'hui, c'est un militaire sans expérience dans le domaine qui occupe le poste. Une politique très inquiétante alors que l'épidémie est hors de contrôle. Le nombre de morts a doublé en 11 jours seulement. Les tests manquent, le système de santé publique est proche de la saturation. Et à São Paulo, les jours fériés ont été regroupés, une semaine entière de fériés jusqu'à mardi prochain. Une mesure qui semble parfaitement inefficace.
En Brésil, Marino Dacher. En sport, cette décision qui est tombée en début de soirée, les recours déposés par les clubs de foot de Lyon, Amiens et Toulouse sont rejetés par la justice. Ces équipes contestent l'arrêt de la saison en cours après la dernière journée disputée le 8 mars et donc le classement qui en découle, qui ne leur est évidemment pas favorable. Christophe Lamarre.
Une claque pour Lyon, Amiens et Toulouse, un soulagement pour la Ligue de football professionnel. Même si le combat des trois contestataires n'est pas tout à fait terminé, cette première manche est bel et bien perdue. Le juge des référés estime que ce n'est pas à lui de dire si la décision d'arrêter le championnat définitivement est fondée ou pas. Ce soir, c'est donc un retour à la case départ. Amiens et Toulouse devront descendre en Ligue 2. Lyon ne jouera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour son président d'ailleurs, c'est un revers à plus d'un titre, personnel, sportif et financier. Jean-Michel Aulas a pris très tôt la tête de la fronde au point d'agacer ses collègues de Ligue 1. Ce premier échec ne devrait pas en attrister beaucoup. Sur le plan économique, la perte est considérable, au moins 40 millions d'euros. Le club a d'ailleurs mis en place un plan d'économie pour surmonter cette baisse de revenus liée à l'arrêt du championnat. Une non-qualification européenne ne ferait qu'aggraver la situation. Mais il y aura un match retour. Il se disputera devant le Conseil d'État. Amiens le saisira lundi en référé. Toulouse et Lyon devraient suivre.
Les explications de Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. Pour clore ce journal, ouvrez bien vos oreilles, cette chanson que vous connaissez forcément et sur laquelle vous avez dansé probablement. Un extrait en forme d'hommage, Yeke Yeke, c'est le titre de ce tube planétaire des années 80 que l'on doit au chanteur et musicien guinéen Mori Kanté et qui est décédé à l'âge de 70 ans. Il était hospitalisé à Conakry et souffrait de maladies chroniques. Il a largement contribué à l'émergence de la world music. Après le soleil très présent aujourd'hui dans la majeure partie de l'Hexagone, changement assez radical pour demain puisque vous nous annoncez, Anissa Haddadi, une journée plutôt agitée.
Ah, effectivement Stéphane, demain ça sera beaucoup moins calme que cette semaine. Alors de la Gironde jusqu'aux Ardennes, le ciel est couvert avec de la pluie. À l'avant de cette perturbation qui traverse la France demain, de l'Occitanie jusqu'aux Alpes, en passant par le Massif central, nous aurons des nuages. Ils seront nombreux, ils seront épais, avec d'ailleurs sur l'Auvergne et le Jura des coups de tonnerre. Sur le quart sud-est, sur la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse, le temps est sec, le ciel est dégagé. Vous aurez droit à une journée assez ensoleillée. Alors dans l'après-midi, demain, la perturbation, elle va s'avancer vers le sud-est. Sur la moitié nord du pays, le ciel redevient dégagé, le temps redevient calme. Et sur le quart nord-ouest, attention, c'est le vent qui se lève et il souffle jusqu'à 70 km/h sur les côtes. Dans le sud, sur le golfe du Lion, là aussi, le vent du nord se lève, le Mistral et la Tramontane pourront atteindre les 70 km/h. Alors les températures, elles baissent forcément demain avec cette perturbation. 9 à 14 degrés demain matin jusqu'à 17 dans le sud. Et dans l'après-midi, la baisse va se faire vraiment sentir avec 16 à 20 degrés sur l'ensemble du pays, 17 à Lorient, 19 à Biarritz, 20 à Lille et Strasbourg, 22 à Paris seulement et 24 à Chambéry. Et puis dans le sud-est, il fait bien plus chaud, 28 à Gap, 30 à Montpellier et 31 pour Avignon. Allez, un mot rapide pour dimanche et lundi, retour d'un temps sec et ensoleillé.
Merci Anissa, la météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com et l'invité écho avec Emmanuel Duteil. Europe 1. C'est l'heure de retrouver Claire Lemaître de Boursier.com pour un point complet sur la bourse. Wall Street a encore beaucoup hésité ce soir, pénalisé toujours par le conflit entre les États-Unis et la Chine, Claire.
Oui, encore beaucoup, beaucoup de prudence. Un Dow Jones presque à l'équilibre. Il perd 0,04%, 24 465 points. Le Nasdaq résiste au mieux, plus 0,43%, 9 324 points. Séance marquée une nouvelle fois par le bras de fer entre Washington et Pékin. Les États-Unis n'apprécient pas du tout la menace de la Chine de renforcer son emprise sur Hong Kong avec de nouvelles règles sécuritaires. Donald Trump a promis de réagir fortement. Et ça inquiète beaucoup Wall Street. Alors cette ambiance pèse encore très lourd sur les entreprises chinoises cotées à New York. Alibaba, le géant du e-commerce, plonge de 6% malgré de bons résultats trimestriels. Baidu, le moteur de recherche, est sanctionné également avec une chute de 6,2%. Les valeurs pétrolières aussi sont en baisse. Le baril de brut léger WTI cède 2,4% sur le NYMEX. Ça pèse sur Chevron ou Schlumberger en repli de plus de 1%. Et puis du côté des devises, l'euro perd 0,4%. Il s'échange contre 1,09$.
Et à Paris, Claire, c'est une clôture stable pour le CAC 40, après là aussi beaucoup d'hésitations.
Ouais, c'est un repli symbolique. Moins 0,02% à 4444 points. On est donc pratiquement stable. Séance positive pour le secteur automobile qui espère un plan de soutien massif de l'État après une chute sans précédent des ventes de voitures depuis le début du confinement. Peugeot gagne donc 1,2%. Les équipementiers montent aussi. Michelin plus 1%. Forestia plus 1,6%. Une exception de taille avec Renault qui chute de 2,9% après les déclarations de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie estime que le constructeur joue actuellement sa survie.
Oui, déclaration sur Europe 1 ce matin. La menace de Pékin de renforcer son emprise sur Hong Kong avec une loi sécuritaire, une loi nouvelle, a pesé sur le secteur du luxe.
Ouais, le numéro 1 mondial du luxe, LVMH, perd 1,3%. Kering lâche 2,4%. Du rouge aussi pour les groupes de spiritueux, Pernod Ricard ou Rémy Cointreau. Toutes ces entreprises, elles comptent beaucoup, bien sûr, sur le marché asiatique pour leur activité. Et puis les matières premières sont restées à la traîne également. Eramet perd plus de 3%. Et ArcelorMittal, moins 1,6%. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le désordre. Londres perd 0,4%. Mais Francfort gagne 0,1, plus 0,2 pour Madrid, plus 1,3 pour Milan, plus 0,7 pour Bruxelles. Et à Paris, le CAC 40 est stable. Il termine à 4444 points.
Merci, c'était Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. À 22h22 précisément sur Europe 1, c'est le moment de retrouver l'invité éco d'Emmanuel Duteil. Vous en avez peut-être ras-le-bol de faire des abdos dans votre salon. Bonne nouvelle, les salles de sport se préparent à la reprise. Et pour en parler, Emmanuel, vous recevez ce soir Arthur Benzaken, le cofondateur de Ken Group, qui détient notamment les salles de sport CMG.
Bonsoir Arthur Benzaken.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté à l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de l'un des plus grands groupes de salles de sport en France, Ken Group, et également les salles CMG que l'on connaît bien. Vous faites partie de ces activités qui ne sont pas encore déconfinées. Est-ce que vous avez une petite idée du moment où les salles de sport vont pouvoir rouvrir ?
Non, pas de visibilité précise pour le moment. Comme ça, spontanément, on peut se dire que ce sera entre mi-juillet et début septembre.
Quand on ne connaît pas exactement la date et qu'on ne peut pas dire que l'on connaisse véritablement la façon non plus dont il va falloir adapter les salles de sport pour pouvoir rouvrir, comment on se prépare chez vous du côté de Ken Group ?
Alors, de notre côté, on va être un petit peu, si j'ose dire, les enfants gâtés de ça, parce qu'en fait, on est préparé, on est des clubs premium, on a beaucoup de personnel, donc on a des équipes qui vont être formées à pouvoir mettre en place des gestes barrières, faire en sorte que ce soit respecté, avoir des équipes de ménage renforcées. Et surtout, pour vous donner une idée, nos clubs, sur à peu près 2000 m², ce qui est la moyenne des salles de sport à peu près, on va tourner aux alentours entre 1000 membres pour le Ken Club, par exemple, et 2000 membres, par exemple, pour un Clay ou un CMG Sports Club. Et là où les low cost, sur la même superficie, vont tourner aux alentours de 8 à 10 000 membres.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en adaptant un petit peu les heures de pointe, vous devriez vous en sortir.
Oui, on pense qu'on n'a pas vraiment de problème à pouvoir fluidifier les clients dans le club. Oui.
Ce qui est très intéressant pour vous, c'est que vous faites partie de ces activités qui se sont réinventées en partie pendant cette crise, puisque vous avez proposé sous vos différentes enseignes des cours à domicile. Est-ce que finalement, demain, ce ne sera pas un mix des deux ? Je pourrais peut-être prendre juste un abonnement de cours à domicile ou des cours à domicile en plus de ce que je pourrais faire à la salle de sport. Quand je dis cours à domicile, c'est bien évidemment en ligne.
Ben écoutez, pendant que je suis en interview avec vous, vous voyez, je viens de recevoir un petit texto de mon CTO qui est en train de travailler dessus. Je vous confirme qu'on est en train de travailler sur une salle de sport digitale. On a vu le succès que ça avait. Très franchement, on a mis ça en place non pas pour s'adapter commercialement, puisque on a fait 0 € de chiffre d'affaires avec ça. Hein. Tout a été à destination de la fondation de la PHP. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, un programme de cours hyper innovant, qui allait du shadowboxing au yoga, en passant par la méditation, la nutrition, l'automassage, c'était un accompagnement très fort pour les gens à domicile. Et eux-mêmes se sont rendus compte au même titre que le télétravail, on pensait que c'était impossible, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire du sport à la maison. Donc oui, je vous confirme que aujourd'hui, l'idée va pouvoir faire un mix des deux. On n'abandonne pas l'un, on n'abandonne pas l'autre. Même demain, un client de nos salles de sport, le principe, c'est de se dire qu'il va pouvoir partir en vacances avec son coach dans la valise, et ou qu'à un moment, dans une période de rush, il va pouvoir quand même faire un cours de renforcement musculaire de 20 minutes avant de partir au bureau avec son coach.
Chez vous, la grosse dépense, une des très grosses dépenses, ce sont les loyers, hein, parce que vous êtes dans les villes, vous avez de très gros locaux. Il y a eu beaucoup de polémiques avec les bailleurs pour annuler ces loyers. Où est-ce que vous en êtes chez vous ?
Je pense qu'on est encore au début et je pense que ça va être un scandale financier. Ça va sauter à la figure de tout le monde à un moment, puisque effectivement le commerce subit depuis pas mal de temps maintenant, on ne va pas redire tout ce qui s'est dit, mais sur les gilets jaunes, les grèves, etc. Et on est dans une période où aujourd'hui on est tous logés à la même enseigne, on fait 0 € de chiffre d'affaires. Et face à ça, on a la charge fixe la plus lourde de tous nos P&L, qui sont les loyers, et avec des bailleurs, dans leur grande majorité, qui font la sourde oreille.
C'est-à-dire que vous, de façon très concrète, il n'y a pas un seul de vos bailleurs qui, pour le moment, a accepté d'annuler les loyers de la période du confinement. Et vous, on peut considérer que vous êtes toujours confiné, donc on va dire de mars, avril, mai.
Si. Ça a été de longues conversations, mais vous voyez, la plupart, ce sont justement des personnes physiques, ce sont des bailleurs privés.
Mais ce que vous dites, il y en a très peu qui sont sur cette ligne-là. La plupart ne veulent pas annuler vos loyers.
Ben, la plupart, avec en un, s'il faut le dire, les institutionnels, c'est-à-dire qu'ils ont la double casquette d'être des assureurs qui refusent de payer les pertes d'exploitation quand bien même on serait assuré. Et la deuxième, qui sont aujourd'hui propriétaires d'une très grande partie du parc immobilier, particulièrement dans les centres-villes, et qui envoient les petits papiers bleus pour faire jouer la clause résolutoire des baux quand les loyers ne sont pas payés le 4 avril.
Si vous n'obtenez pas la suppression de ces loyers, est-ce que ça met en difficulté et est-ce que ça met en cause la pérennité de votre entreprise ?
On va savoir passer cette période, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça n'est pas les bailleurs qui vont créer un rebond économique. Pour garder les choses en face. Qui va créer le rebond économique ? Il faut qu'on ait d'argent. On vient de s'endetter, on vient de prendre un PGE. Ça n'est pas pour payer les loyers pendant une période de fermeture. C'est bien, un, pour passer cette crise, parce qu'il va y avoir une érosion de l'activité, et deux, de pouvoir générer réellement un rebond économique, continuer à embaucher, continuer à investir et continuer à être dynamique. Moi, par exemple, c'est 5 millions d'euros de loyer entre le 15 mars demain et le 15 juillet, avec 0 € de chiffre d'affaires, en fait, à un moment, je m'ampute de 5 millions d'euros d'investissement pour le développement de ma boîte. Donc, je vous confirme que c'est un frein pour la pérennité de la boîte, mais pas que.
Du coup, vous en appelez au gouvernement ?
Aujourd'hui, ils disent, grosso modo, je ne mettrai pas un centime de plus, il faut que vous vous mettiez d'accord de gré à gré. Mais on a affaire à, excusez-moi le terme, il est un peu caricatural, mais à des profiteurs de guerre qui se disent, j'ai tout intérêt à ne pas me mettre d'accord, parce que si je ne suis pas d'accord, soit j'obtiens 100% de mes loyers sans la moindre remise, soit je récupère des fonds de commerce pour zéro.
Eh bien, on va suivre tout cela. Un grand merci, Arthur Benzaken, le cofondateur de Ken Group, propriétaire également des salles de sport CMG, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi, 22h20.
Emmanuel Dutheil, à lundi pour un nouvel invité Écho. Europe 1. Rendez-vous habituel, la revue de presse de vos unes de demain matin. La une d'aujourd'hui en France pour commencer. L'été sera chaud et sec, annonce le journal, avec la photo d'un champ aride écrasé par le soleil. Cet été pourrait être comme l'an dernier, caniculaire. L'été sera chaud, c'est ce que dit aussi à sa une Libération. Mais Libé pointe là les risques d'effondrement d'un secteur très durement frappé par la crise, le tourisme, avec la fermeture des hôtels et des restaurants. À quoi ressembleront les plages cet été? C'est la question à la une du Figaro avec cette photo qui montre une jeune femme en maillot de bain, assise sur le sable, dans un espace sévèrement délimité par quatre piquets et une corde. De la Bretagne à la Côte d'Azur, comme partout en Europe, les villes côtières repensent l'espace pour accueillir les vacanciers. La presse régionale avec Ouest France et ce titre à la une. Second tour le 28 juin, si le virus le permet. Une photo devant une urne couvre une main gantée en arrière-plan des assesseurs portant un masque de protection. Image forte aussi sur le même thème à la une du Dauphiné Libéré, une Marianne portant un masque. Et ce titre, vous devrez voter masqué. La Nouvelle République enfin a compté, ce sont 34 communes de Touraine qui seront concernées par ce second tour des municipales le 28 juin prochain. Voilà quelques-unes que vous découvrez demain aussi bien sur votre tablette d'ailleurs que chez votre marchand de journaux si vous optez pour la version papier.